Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes à tirer des médias suivants. La presse et le devoir. Au programme, le lieu qui ne dégèle jamais. Le super ordinateur quantique d'IBM s'en vient. Et Québec allège les obligations environnementales d'une entreprise délinquante. Bonne écoute.
Le lieu qui ne dégèle jamais. Un texte de Isabelle Picard, ethnologue, paru le 2 février 2023 dans la presse. En fin de semaine, il fera froid. Normal, c'est l'hiver. Nous aurons sans doute tous la même réaction au sortir de nos chaumières, au moment du passage de l'air chaud de nos maisons à l'air glacial, comme une petite contraction involontaire du corps et le souffle coupé, le temps qu'on s'ajuste. On parlera du froid chaque fois qu'on rencontrera quelqu'un. Un vendeur dans une boutique, un serveur au restaurant, le chauffeur d'autobus, les amis chez qui on va souper, en espérant qu'il y ait un potage fumant au menu. Pas trop souvent, un tel froid, s'il vous plaît. J'ai une autre solution pour vous réchauffer. L'histoire de Grisefjord, Ojibwetok, en Inuktitut, ou le lieu qui ne dégèle jamais. L'histoire de ce village d'à peine 130 personnes est fascinante. Grisefjord est situé sur l'île d'Ellesmer au Nunavut. C'était le village le plus nordique du Canada jusqu'à l'établissement de la base militaire d'Alerte, un peu plus au nord, sur la même île. Le record de froid à Grisefjord, c'est moins 62,2 degrés centigrades sans le facteur vent. Mais ce n'est pas tant de météo que je veux vous parler, même si, quand on parle de Grisefjord, ça devient incontournable. Grisefjord a été fondé par le gouvernement canadien en 1953, en pleine guerre froide. Le gouvernement désirait alors affirmer sa souveraineté sur son territoire, tout son territoire. Or, en extrême arctique, il n'y avait personne. Et quel meilleur moyen que d'affirmer qu'un territoire nous appartient que de l'habiter? Dans la courte histoire de ce pays, le gouvernement s'est très bien joué de cette notion à son avantage. Le problème, c'est quand justement, personne ne l'habite, ce territoire. Le gouvernement canadien s'est alors dit que des Inuits pour habiter l'extrême arctique, ça ferait très bien l'affaire. Après tout, les Inuits connaissent le froid, non? Le gouvernement a alors entrepris une campagne de séduction auprès de familles d'Inukjuak au Québec en leur promettant des maisons et du gibier en abondance. Ils n'auraient besoin de se soucier de rien, tout serait fourni. Mais Grisefjord, à vol d'oiseau, c'est à 2000 kilomètres de leur village, vers le nord. Évidemment, personne ne s'est montré intéressé. Le gouvernement a alors joué de plus de finesse en disant à une famille qu'une autre famille, ses cousins, avait, elle, accepté de s'y rendre. Il a répété le manège à plusieurs reprises. Or, il n'y avait rien de plus faux. Une machination. Ne voulant être séparés des leurs, les familles ont finalement accepté sans connaître la vérité. De plus, on leur garantissait qu'elles pourraient revenir au bout de 2 ans. Tout ce beau monde, 7 familles en tout, s'est donc dirigé vers le nord. À leur grande surprise, à leur arrivée, il n'y avait rien, sauf du froid. Grisefjord, c'est un désert polaire et les Inuits, oui, même eux, n'avaient aucune idée comment survivre dans de telles conditions. Pas de maison telle qu'elles avaient été promises par le gouvernement. Les nouveaux arrivants n'avaient que leur tente, totalement inadéquate pour le climat. Ils ont dû se résigner à brûler leur kayak pour se réchauffer. Or, sans kayak, pas de chasse aux morses. Il y avait bien quelques rares animaux comme le bœuf musqué, mais les agents de la GRC empêchaient les Inuits de les tuer sous peine d'une amende de 5 000 $. Les Inuits obéissants et sans le sou se sont tournés vers le phoque pour éviter la famine. Ils ont mangé du phoque à s'en écœurer. Ils ont eu faim. C'est comme si on avait dit à ces mêmes Inuits, « On vous délocalise à New York, au sud, et vous allez pouvoir y vivre selon vos coutumes. » Les Inuits n'auraient évidemment pas su quoi faire à New York, à 2 000 km de chez eux, avec cette flore et cette faune toutes différentes. C'est exactement ce qui s'est passé à Grisfjord. Contrairement à sa promesse orale, le gouvernement n'a jamais voulu les laisser entrer chez eux, malgré leurs supplications. Une promesse orale ne compte pas aux yeux du gouvernement. Plusieurs Inuits sont morts. Le gouvernement n'a non seulement pas respecté ses promesses, mais il a floué ses Inuits. Ils ont été abandonnés. Leur vie a été volée. Aujourd'hui encore, la douleur est perceptible parmi les témoignages qu'on peut entendre dans l'excellente balado Immersion de Radio-Canada, épisode Grisfjord. Certains Inuits sont finalement rentrés chez eux, à Inukjuak, à la fin des années 1980, 35 ans après la déportation. Le Canada finira par s'excuser en 2010. L'histoire du Canada s'est construite sur des promesses de ce genre, des promesses prises dans la glace et qui fondent aux premières lueurs du printemps. Heureusement que des gens se souviennent. C'était « Le lieu qui ne dégèle jamais », un texte de Isabelle Picard, ethnologue, paru le 2 février 2023 dans la presse.
Le superordinateur quantique d'IBM s'en vient. Un texte de Jean-Philippe Descaries, paru le 27 janvier 2023 dans la presse. L'informatique quantique a longtemps été considérée comme un domaine générateur de scénarios futuristes improbables, mais elle est devenue aujourd'hui un terreau de développement bien réel qui pourra prochainement servir aux entreprises québécoises avec l'entrée en activité à Bromont du superordinateur quantique d'IBM, une machine qui n'existe que dans 5 pays dans le monde. L'informatique quantique, née du croisement de l'informatique et de la physique quantique, est un domaine de recherche qui progresse depuis plus de 70 ans et qui suscite la fascination tout autant qu'il ne se vulgarise pas facilement. Dans le roman « Prisonnier du temps » de l'écrivain à succès Michael Crichton, « Le parc jurassique », publié en 1999, l'informatique quantique permet à un chercheur mégalomane de construire un ordinateur assez puissant pour permettre la transmission des milliers de données qui caractérisent l'être humain. On assiste à la création d'une machine à voyager dans le temps qui transporte un spécialiste du Moyen Âge en pleine guerre de 100 ans et qui s'y perd évidemment. Dans le roman Origine, écrit à la même époque par Dan Brown, autre auteur à succès qui a notamment écrit Da Vinci Code, un jeune futurologue arrive avec l'aide d'un superordinateur et de l'intelligence artificielle quantique à répondre aux deux grandes questions existentielles d'entre toutes, d'où venons-nous et où allons-nous? Si l'informatique quantique a ouvert un monde de potentialités infinies dans le domaine de la science-fiction, ses capacités de calcul avancées, nettement supérieures à celles de l'informatique numérique classique, s'impose de plus en plus dans de multiples domaines de recherche et d'activités économiques. Dans sa volonté d'amener les entreprises québécoises à réaliser et accélérer leur transformation numérique, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, en collaboration avec l'Université de Sherbrooke, a mis sur pied la plateforme d'innovation numérique et quantique du Québec, PINQ, à Sherbrooke. Annoncé en grande pompe il y a 3 ans, PINQ est aujourd'hui en fonction et c'est cette plateforme qui exploitera à partir de septembre le superordinateur quantique d'IBM, le Quantum System One, dont le gouvernement a acquis les droits d'usage pour les 5 prochaines années au coût de 68 millions. Le superordinateur quantique sera installé dans les prochains mois à l'usine IBM de semi-conducteurs de Bromont, mais la gestion de la supermachine se fera par Pink au moyen de l'infonuagique. La plateforme d'innovation travaille également en collaboration avec l'Institut quantique de l'Université de Sherbrooke ainsi que l'Université de Montréal et Concordia. Citation : On offre un environnement hybride avec de l'informatique classique et quantique. On a déjà commencé des projets à partir des ordinateurs quantiques d'IBM à New York, mais à partir de septembre, on va le faire avec le superordinateur de Bromont qui assurera la souveraineté de nos données. Fin de citation, m'a expliqué Éric Capel, directeur général de Pink, cette semaine lors du lancement de cette prochaine étape. Non, le superordinateur quantique de Bromont ne permettra pas de résoudre l'énigme de l'origine du monde. Il va toutefois ouvrir des possibilités aux entreprises et aux chercheurs qui vont utiliser sa puissance de calcul inégalée pour développer des algorithmes que l'informatique classique est incapable de réaliser. Citation : Simuler les propriétés d'une molécule d'insuline avec un ordinateur classique nécessiterait une machine de la taille d'un pays ou même de la Terre. Un ordinateur quantique offre des possibilités de calcul immenses pour développer des algorithmes beaucoup plus complexes. On est passé de l'analogique au numérique et maintenant le quantique nous amène ailleurs. Fin de citation, explique Jean-François Barsoum, directeur exécutif innovation chez IBM. Le superordinateur quantique de Bromont va servir à optimiser la recherche opérationnelle et à développer notamment de nouveaux matériaux, de nouveaux médicaments, des solutions pour le secteur de l'énergie, de l'environnement et du manufacturier, tout comme des algorithmes de gestion de risque pour le monde financier. On prévoit qu'une vingtaine d'entreprises vont utiliser son potentiel dans la première année et qu'une centaine de projets pourraient s'y greffer annuellement par la suite. Citation : On veut être proche des universités et des grandes organisations comme le MILA ou IVADO, tout autant que des PME par l'entreprise des centres collégiaux de transfert des technologies. On a déjà des start-up comme LEDAR Tech qui participent à des projets. Fin de citation, précise Éric Capel de Pink. IBM utilise une vingtaine de ses superordinateurs quantiques dans son centre de recherche à New York et 4 États seulement dans le monde disposent ou seront bientôt dotés d'un Quantum System One, l'Allemagne, le Japon, la Corée du Sud et bientôt le Québec. Citation : Ce qui est bien, c'est que chaque nouvelle version du superordinateur quantique est plus performante que les précédentes. Celui de Bromont dispose de fonctionnalités additionnelles en intelligence artificielle, ce qui va profiter à nos chercheurs dans le domaine. Fin de citation, dit Jean-François Barsoum, directeur exécutif innovation chez IBM. Le gouvernement fédéral a annoncé cette semaine un investissement de 40 millions pour permettre à la société torontoise Xanadu Quantum Technologies de construire un ordinateur quantique basé sur la photonique, un projet de 180 millions. Selon le Conseil national de la recherche du Canada, l'industrie quantique canadienne devrait générer 140 milliards de dollars d'activités économiques annuelles d'ici 2045. Il faut donc s'attendre à ce que le premier nouvel ordinateur quantique de Bromont fasse des petits au cours des prochaines années. C'est vraiment là que le monde de l'infiniment petit et du démesurément grand se dirige. C'était « Le superordinateur quantique d'IBM s'en vient », un texte de Jean-Philippe Descaries, paru le 27 janvier 2023 dans La Presse.
Québec allège les obligations environnementales d'une entreprise délinquante. Un texte de Ulysse Bergeron et Marie-Ève Cousineau paru le 20 janvier dans Le Devoir. Le centre de tri de services 3R Valorisation situé à Montréal-Est déborde. Or, malgré de nombreux avis de non-conformité et d'importantes sommes dues au fisc canadien et québécois, l'entreprise a récemment bénéficié d'un sursis de la part du ministère de l'Environnement, a constaté Le Devoir. Le gestionnaire du site qui a signé cette entente avec Québec a eu des démêlés avec la justice. Le site de 3R Valorisation, qui fait environ 10 000 mètres carrés, croule sous les résidus de construction. Lors de notre passage, les amas atteignaient par endroits 9 mètres, une hauteur bien supérieure à la limite de 5 mètres permise dans le certificat d'autorisation délivré par le ministère de l'Environnement. Les montagnes de résidus sont telles qu'une affiche « trottoir barré » et des cônes oranges ont été installés, par mesure de sécurité, le long du muret qui ceinture le site. Les infrastructures servant au tri des matières résiduelles, en partie ensevelies, sont actuellement inaccessibles. Cela n'empêche toutefois pas des camions d'y transporter d'autres résidus. Manquement et amende. Depuis 2013, 3R Valorisation est dans la mire du ministère de l'Environnement. 6 inspections ont relevé des manquements aux normes environnementales québécoises. Hauteur des amas et zones d'entreposage non respectées, débris tombant sur les propriétés voisines, lixivia s'écoulant du site lors de la fonte des neiges et non tenue d'un registre des matières qui entrent sur le site et qui en sortent. L'exploitant a refusé de permettre à l'inspecteur de consulter les registres des intrants et des extrants du centre de tri, précise dans une ordonnance le ministère de l'Environnement à la suite d'une inspection réalisée en 2017. Au cours des 10 dernières années, le ministère a transmis 5 avis de non-conformité et a infligé 3 amendes à ce jour impayées, totalisant 17 500 $. Malgré ce comportement délinquant, le ministère de l'Environnement a récemment allégé les obligations de l'entreprise. En vertu d'un accord de conciliation conclu en octobre dernier, Québec permet à 3R Valorisation de former, jusqu'au mois d'avril prochain, des amas de 9 mètres de haut. Il lui donne jusqu'à avril 2024 pour respecter les critères de son certificat d'autorisation qui autorise des amas de 5 mètres. Pourquoi un tel sursis? Le ministère indique que cet accord a été conclu après que 3R Valorisation eut contesté les décisions du gouvernement. Le ministre de l'Environnement, Benoît Charrette, suit la situation de près, affirme son attaché de presse, Mélina Jalbert. Si les mesures ne sont pas respectées, le ministre est déterminé à prendre les recours nécessaires, dit-elle. 3R Valorisation connaît d'importants problèmes financiers. Dans ce contexte, l'entreprise sera-t-elle en mesure de respecter ses nouvelles obligations à l'égard du ministère de l'Environnement d'ici le printemps 2024? En théorie, oui, répond l'avocat de 3R Valorisation, maître Carl-Emmanuel Harrison. Depuis 2022, 3R Valorisation a de nouveau débouché pour se départir des fractions fines, selon l'avocat qui précise que l'entreprise attend actuellement un tamiseur pour assurer le tri de ses matières. La table de tri est défectueuse depuis l'été. Elle n'est pas accessible actuellement, ce qui expliquerait que les réceptions sont réduites au minimum. Maître Harrison ajoute que les engagements sont clairs. Il y a un délai de 18 mois pour régler les deux problèmes. Le problème de hauteur des piles et une réduction de la pile de fractions fines. Les fractions fines sont des matériaux comme le bois, le verre, le gypse ou les bardeaux d'asphalte. Vous écoutez, Québec allège les obligations environnementales d'une entreprise délinquante. Un texte de Ulysse Bergeron et Marie-Ève Cousineau paru le 20 janvier 2023 dans Le Devoir. Pour le directeur du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets, Karel Ménard, le sursis qu'offre le ministère de l'Environnement, c'est presque une complicité. Compte tenu de l'historique environnemental de la compagnie, vous, essayez de ne pas payer une contravention au ministère. Je suis pas mal certain que vous allez avoir un sabot de Denver au cours de la prochaine année. Pourquoi donne-t-il des délais comme ça? Honnêtement, je n'en ai aucune idée, mais pour moi, c'est inacceptable. Démêlé avec la justice. Le président de 3R Valorisation, Simon Bergeron, en arrêt de travail depuis l'été, a refusé notre demande d'entrevue. Lors de notre passage au centre de tri, deux hommes dans un camion ont barré la route au véhicule du devoir sur la voie publique. Lorsque questionné au sujet des manquements environnementaux de 3R Valorisation, le conducteur a renvoyé le journal à l'avocat de 3R Valorisation, Maître Harrison. « Il faudrait lui parler avant d'écrire n'importe quoi, parce qu'il va y avoir de gros, gros changements. » L'homme rencontré à Montréal-Est se révèle être Jean-François Boisvert, directeur des opérations du centre de tri. M. Boisvert tient actuellement les rênes de l'entreprise. C'est lui qui, à titre de représentant légalement autorisé de 3R Valorisation, a signé l'accord de conciliation avec le ministère de l'Environnement. Jean-François Boisvert a eu de nombreux démêlés avec la justice. Il a plaidé coupable d'extorsion en 2009. Deux ans plus tard, le bureau de son entreprise, Remblay JFA, a fait l'objet d'une perquisition dans le cadre de la deuxième phase du projet ETO, une enquête d'envergure menée par Revenu Québec et la Sûreté du Québec, SQ. La démarche visait des entreprises qui auraient bénéficié d'un réseau de facturation de complaisance dans les secteurs de la construction et du transport, selon les documents de la Cour. En 2017, l'entreprise qui n'est plus en activité a plaidé coupable à une accusation réduite pour ne pas avoir respecté la loi sur la taxe d'assises. Les accusations ciblant personnellement M. Boisvert ont été retirées un an plus tard. En 2015, c'est l'entreprise de décontamination, gestion OFA Environnement, dont Jean-François Boisvert était directeur des opérations, qui se retrouve sous les projecteurs. Elle fait alors l'objet d'une enquête de la SQ et du ministère de l'Environnement pour avoir déversé illégalement des sols contaminés. Dans le cadre de cette enquête baptisée Naphtalène, les autorités ont mené des perquisitions visant notamment des infractions alléguées de possession de biens criminellement obtenus, de production et usage de faux, de fraude, de méfaits et de recyclage de produits de la criminalité et de participation aux activités d'une organisation criminelle. L'enquête a avorté en 2018 pour insuffisance de preuves pouvant établir la culpabilité des suspects, selon le directeur des poursuites criminelles et pénales. Gestion OFA Environnement poursuit maintenant le gouvernement du Québec ainsi qu'un enquêteur du ministère de l'Environnement et des enquêteurs de l'ASQ. Elle réclame 4,25 millions de dollars pour atteinte à sa réputation et en dommages punitifs, entre autres. Les perquisitions n'étaient pas basées sur des motifs raisonnables. Elles ont engendré la fermeture de l'entreprise, affirme Maître Harrison, également avocat de gestion OFA Environnement. Dans sa requête, la compagnie accuse aussi la SQ d'avoir laissé filtrer de l'information dans les médias, ce qui aurait nui à son image. Jean-François Boisvert a refusé de commenter ces dossiers. En 2020, le ministère de l'Environnement s'est cette fois intéressé à 3R Valorisation. Dans une demande d'injonction déposée à la Cour supérieure, il indique qu'une opération de filature a permis de constater que des matières résiduelles provenant du centre de tri de Montréal-Est étaient déversées illégalement sur un site à Saint-Gabriel-de-Brandon, dans Lanaudière, ce que rapportait la presse à l'époque. Ce site-là devait satisfaire à des conditions pour recevoir des matériaux et il n'y avait pas satisfait. À partir du moment où le ministère nous a fourni des documents, 3R Valorisation a cessé d'envoyer de la matière là, assure Maître Harrison. 3R Valorisation est aujourd'hui à la croisée des chemins. Elle n'a pas l'intention de poursuivre ses activités dans sa forme actuelle. Maître Carl Emmanuel Harrison confirme que 3R Valorisation a entamé des démarches pour vendre ses actifs. Des offres ont été faites par certaines personnes pour acquérir le terrain, soutient-il. Peu importe les scénarios envisagés, le site sera nettoyé, assure-t-il. Soit il y a une vente du terrain et l'acheteur nettoie, soit la compagnie nettoie et vend, soit 3R Valorisation nettoie et continue ses activités. Une faillite est-elle projetée? Ce n'est pas le scénario envisagé. C'était « Québec allège les obligations environnementales d'une entreprise délinquante », un texte de Ulysse Bergeron et Marie-Ève Cousineau, paru le 20 janvier dans Le Devoir.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier et Jocelyne Langevin à la lecture, Francine Thériault et Suzanne Beauchamp à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.